Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Découvrir qui l'on est pour savoir où l'on va et ce pourquoi l'on est fait, c'est le désir qui habite le cœur de chacun. L'anthropologie chrétienne prend en compte la dimension transcendantale de tout homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine, créée à l'image de Dieu. Nous avons compris le mois dernier l'égale dignité et la complémentarité entre l'homme et la femme, avec cette nécessité de l'altérité. Je vous propose aujourd'hui de comprendre ce qui fait la spécificité de chacun, homme et femme. Bonjour Camille de Certaine.
Bonjour Isabelle.
Vous voilà pour cette troisième émission sur l'anthropologie chrétienne et notamment appuyée, en tout cas celle qui concerne la femme. Oui. Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, diplômée de l'EM Lyon. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps, en plus d'études de philosophie. Et avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Et puis, puisque ça n'est pas terminé, vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes qui s'intitule Mademoiselle Potentielle. Voilà pour votre petit CV. Alors, en quelques mots, Camille de Certaine, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce qu'implique l'altérité de l'homme et de la femme ?
Oui, le mois dernier, donc on a vu l'égale dignité et la complémentarité homme-femme. Et donc cette nécessité de l'altérité, c'est-à-dire que nous partageons la même dignité de personne humaine, mais nous ne sommes pas les mêmes et nous ne sommes pas interchangeables. Voilà, il faut vraiment tenir les deux. Et d'ailleurs, c'est cette altérité qui permet la communion. Nous sommes créés à l'image de Dieu, communion d'amour de la Sainte Trinité, et donc appelés à vivre cette communion d'amour entre l'homme et la femme. Voilà. Et sans altérité, pas de communion possible.
Sans altérité, pas de communion possible. Merci en tout cas pour ce petit rappel qui nous met un petit peu nos pendules à l'heure parfois. on peut être, c'est vrai, assez perturbé par ce qu'on entend aussi dans les médias et puis dans notre société. Les spécificités de l'homme et de la femme sont inscrites dans leur nature même. Et c'est notamment ce que nous révèlent les recherches scientifiques et notamment les neurosciences. Qu'est-ce qu'elles nous disent précisément ?
Oui, c'est très intéressant parce que ces spécificités ne sont pas des carcans idéologiques, elles ne sont pas des constructions sociales ou des constructions culturelles, voilà, comme on peut l'entendre. Elles s'ancrent vraiment dans une différenciation physiologique qui est largement étudiée par les scientifiques. Notamment, il y a un excellent livre du professeur Ecochard intitulé « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences » et donc qui vient nous donner des arguments tout à fait scientifiques à cette différenciation homme-femme. Par exemple, il nous montre que la distinction homme-femme donc, se retrouve dès la vie intra-utérine dans le développement du cerveau, et notamment dans la présence plus ou moins importante de testostérone dans le liquide amniotique. Donc, par exemple, on a mesuré qu'il y avait des taux de testostérone entre différentes filles et différents garçons, et donc sur un continuum, on voit qu'on a des filles très filles et d'autres filles moins fifi, on va dire, et des garçons avec des traits masculins plus marqués que d'autres, selon finalement que leur taux de testostérone est plus ou moins élevé. On voit aussi que ce taux impacte la masculinisation ou la féminisation du cerveau et donc le fonctionnement. Ça, c'est vraiment, en fait, vraiment important. L'hémisphère gauche du cerveau, on peut le rappeler, donc tient une place importante pour l'empathie. Et l'hémisphère droit, c'est plus les questions d'analyse systématique, voilà. Et on voit que pour le petit garçon, à partir de la 8e semaine in utero, et donc il y a une production de testostérone donc par le petit garçon. Et cette testostérone, en fait, elle masculinise les organes génitaux et le cerveau à partir de la 24e semaine. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette testostérone ? Eh bien, en fait, elle ralentit la croissance du cerveau gauche. Et les chercheurs voient en imagerie cérébrale que le cerveau droit est effectivement prédominant chez le fœtus garçon, alors que le cerveau gauche est prédominant chez le fœtus fille. Voilà, donc en fait, ce livre donne tout un tas d'exemples et de données passionnantes, finalement, qui expliquent physiologiquement les différences hommes-femmes. Et donc, c'est vraiment un argument qui me semble fondamental et nécessaire aujourd'hui.
Voilà. Oui, on en a bien besoin. Si je peux me permettre de rappeler qu'effectivement, ce professeur Renaud Ecochard, nous l'avons reçu à ce même micro. Et donc, les auditeurs peuvent retrouver les deux émissions que nous avons faites avec lui. Donc, la première à propos de cet ouvrage « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences ». Et puis, la deuxième sur le chromosome Y, ce qu'il dit de l'homme, le masculin. Alors, une autre approche pour distinguer les spécificités de l'homme de celles de la femme, c'est la philosophie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Alors voilà, la philosophie, en fait, elle permet de comprendre la nature de l'homme et de la femme. Et pour les décrire, on peut utiliser deux mots clés. C'est les mots de introversion et de extraversion. Et là, pour ça, je m'appuie pas mal sur les travaux du père Marie-Dominique Molinier, qui est un dominicain philosophe et théologien du XXe siècle. Tout d'abord, un point de vigilance. On n'est pas là pour faire des caricatures. Il ne s'agit pas de mettre les femmes dans une case et les hommes dans une autre case. Et comme on l'avait rappelé d'un point de vue physiologique, en fait, sur une ligne, eh bien, on a une multitude de degrés de féminité et de masculinité. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une tendance de fond qu'il faut comprendre. Voilà. Et en même temps, rester souple. Voilà. Mais donc, en fait, quand même, cette tendance masculine et féminine, elle est très éclairante. Parce que la femme, elle est orientée naturellement vers l'intérieur et l'homme vers l'extérieur. Et donc, en fait, ces orientations naturelles, elles vont se manifester dans plusieurs axes, dans ce qu'ils sont, dans leur mode de relationnel, donc dans leur manière d'entrer en relation, dans leur mode oblatif, c'est-à-dire dans leur manière de se donner, dans leur mode d'engendrement, dans leur fécondité, et dans leur mode d'inclination au mal. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que la femme, elle n'est pas capable d'extraversion, mais la femme, elle a une supériorité naturelle pour l'introversion et l'homme a une supériorité naturelle pour l'extraversion. Et voilà, j'aime bien l'image du sommet et donc deux supériorités naturelles qui se complètent. Bah donc ça fait un sommet et ça fait un achèvement. C'est ce qu'on disait un peu lors de la dernière émission.
La complémentarité,
voilà, on a besoin des deux.
Communion.
Ouais, exactement.
Ouais, bien sûr. Alors, vous avez parlé de ces orientations naturelles de l'homme et de la femme qui se manifestent dans ce qu'ils sont, dans leur mode relationnel, oblatif, mode d'engendrement et d'inclination au mal. On va peut-être les détailler chacun. Alors, peut-être d'abord dans la spécificité de chacun, dans ce qu'il est, homme ou femme.
Voilà. Donc, on a vu deux personnes, corps et âme. Donc, voilà, les facultés personnelles entretiennent des relations complémentaires entre homme et femme et à l'intérieur même de la femme et de l'homme. On a vraiment deux intelligences, primaire et secondaire. L'intelligence primaire qui capte les profondeurs, le mystère, l'invisible. Et donc, la femme, eh bien, elle est plus naturellement développée dans l'intelligence primaire et elle voit les détails. Voilà, on a tous en tête l'exemple de la femme qui voit très bien quand un objet a été déplacé dans son salon ou qui est attentive aux moindres détails d'habillement de ses enfants. Voilà, ce genre de petit exemple concret.
Ouais, c'est vrai.
L'intelligence secondaire, elle capte les sujets objectivés, scientifiques, palpables. Voilà, et l'homme, eh bien, lui, il est vraiment dans cette intelligence secondaire. Il voit les choses dans leur ensemble, il se projette à long terme. Voilà.
Ouais, ça se voit bien quand vous revenez d'un mariage et vous demandez à l'homme de raconter comment était la mariée.
Oui, exactement.
Ça, il ne sait pas, mais la femme peut bien détailler.
Hein? L'homme dira que la mariée était en robe blanche. Voilà,
elle était
déjà
belle.
Beaucoup, elle était très belle.
C'est déjà pas mal. Alors, comment définir chez l'homme, chez la femme, puis chez l'homme, la relation entre l'intelligence, le cœur et l'affectivité?
Oui, alors cette relation intelligence-cœur-affectivité, elle fonctionne pas du tout pareil chez l'homme ou chez la femme. En fait, on peut dire qu'à l'intérieur de la femme, tout est en constante relation, tout est confondu, intelligence, cœur, affectivité, voilà, c'est très lié.
Une circulation.
Voilà, ouais. Tout le temps, ça circule. En fait, on dit que la femme, c'est comme un grand sac fourre-tout, en fait, tout est vraiment mêlé. Et donc, elle met vraiment, d'un point de vue positif, en fait, elle met le poids de son cœur dans tout ce qu'elle fait, en fait, elle engage tout son être dans ce qu'elle fait.
C'est ce fameux cerveau gauche de l'empathie.
Exactement, oui, tout à fait. Et la conséquence négative, bah, c'est que du coup, chez elle, c'est plus compliqué, puisque c'est du coup plus difficile de rationaliser ou de communiquer, parce que voilà, elle est très prise par ses émotions, par son affectivité. Donc, c'est aussi plus difficile de faire le tri. Et donc, elle va voilà, mêler plus d'affect dans ce qu'elle fait. On voit par exemple une femme qui arrive au travail. Et ben en fait elle a déjà eu un vécu chez elle avant et donc admettons qu'elle ait une négociation difficile avec son ado le matin, bon ben ou un conflit avec son mari sur le sujet, bon ben elle va porter ça pendant sa journée de travail et elle va pas
elle va pas cloisonner.
Exactement, elle ne cloisonne pas du tout. Voilà. Alors qu'à l'intérieur de l'homme finalement les limites sont beaucoup plus claires. Voilà, c'est beaucoup plus détaché entre l'intelligence, la volonté, l'affectivité naturelle. Donc d'un point de vue positif, la conséquence positive, c'est que ses décisions et son action, elles ne sont pas entravées par les sentiments. Il est capable de beaucoup plus d'objectivité, de rationalité.
De prendre du recul.
Voilà. Mmh. Et alors que d'un point de vue de la conséquence négative, peut-être, c'est qu'il peut manquer d'engagement de cœur dans ses actions. Voilà, il peut éparpiller son énergie dans les objets plutôt que dans les personnes. Ou alors, il peut compartimenter. Voilà, par exemple, passer d'un sujet à un autre sans penser que sa femme a pu rester dans le premier sujet. Et c'est la fameuse loi du décalage qui est bien connue entre l'homme et la femme. Hein. Voilà, le couple qui était en conflit le matin, le monsieur part travailler, il rentre le soir, il est passé à autre chose, il est ravi de retrouver sa femme, qu'il aime profondément, et il s'imagine pas qu'elle, elle est encore restée peut-être sur le conflit du matin, et donc elle est pas du tout dans un état d'accueil vis-à-vis de lui, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il peut être parfois un peu trop cloisonné. Voilà.
Et puis dans ce que vous dites, ça me fait penser la femme qui a du mal à se détacher de ses émotions et l'homme au contraire qui peut s'en détacher et qui a cette objectivité. Là aussi, on retrouve le bienfait de la complémentarité,
oui.
Puisque l'homme peut aider la femme à prendre du recul sur une situation.
Oui, voilà, il y a vraiment un enrichissement mutuel des deux. En fait, si on s'oppose pas l'un à l'autre, voilà, bah, exactement. Enfin, c'est exactement ce que vous avez dit, quoi. L'homme va aider la femme à objectiver et la femme va aider l'homme à mettre de l'empathie, à s'intéresser à la personne, voilà.
Oui, donc comme quoi, on peut rien faire sans l'autre.
Hein. Oh non.
Les orientations naturelles chez l'homme et chez la femme diffèrent aussi selon leur mode relationnel. Expliquez-nous, Camille Lecertaine.
Alors, la femme, elle entre en relation à partir de l'intérieur. En fait, c'est très lié à ce qu'on a dit avant. Elle s'engage avec son cœur et elle vise le cœur de l'autre. La femme, elle a vraiment une intuition pour le mystère. Elle est beaucoup plus empathique. Et donc, le professeur Ecochard notait que cela venait du taux de testostérone fœtale chez la petite fille.
Dont vous avez parlé au début. Là.
Oui, voilà. Ouais. Qui ralentit la croissance du cerveau droit. Donc, le cerveau droit qui est celui de l'analyse systématique. Et au contraire, ce taux de testostérone chez la fille qui accélère la croissance du cerveau gauche, qui donc est celui de l'empathie. Voilà. Et le centre de la femme, c'est vraiment les autres. En fait, elle est vraiment douée d'intuition. Elle va prouver son amour par des paroles, en fait, souvent plus que par des faits, par exemple dans des paroles valorisantes, voilà. Et en même temps, ça c'est très important, c'est que si elle est capable de le faire, elle en a aussi besoin.
Oui.
Voilà, donc
c'est...
elle a besoin d'entendre
le
son mari lui dire...
de l'amour. Ça.
Oui, exactement. Ouais. Elle a besoin d'entendre son mari lui dire qu'elle l'aime, parce que pour la femme, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Voilà. Et donc, elle est capable de donner, mais elle a besoin de recevoir aussi.
Mmh. Oui, avec une verbalisation qui est nécessaire.
Oui.
Ouais.
Ouais. Donc ça, c'est pour la femme, pour l'homme. Lui, il s'engage à partir de l'extérieur. En fait, il a vraiment une force de décision et d'action. Et lui, il va plus prouver son amour par des faits, par des actes. Voilà. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de l'enrichissement mutuel. La femme, elle a des intuitions très fortes à partir de sa vie intérieure. Et donc, elle a besoin de l'homme pour les relier à la vie concrète, aux décisions, à la mise en œuvre. En fait, la femme, elle a besoin de l'homme pour être sûre d'elle. Parce qu'elle est plus dans l'intuition, mais elle va aussi plus douter facilement.
Oui, elle manque souvent plus de confiance en elle.
Voilà, donc elle va trouver chez l'homme la stabilité, la sécurité, et peut-être ce qui va lui permettre de passer à l'action. Alors que l'homme, voilà, qui a une intelligence peut-être plus détachée, plus objective, plus concrète, plus analytique, bah, il va avoir besoin de s'enrichir de l'intuition de la femme pour la connecter aux besoins des gens, à ce qui est invisible. Voilà, cette belle expression de Jean-Paul II, sentinelle de l'invisible, voilà, s'applique vraiment bien à la femme.
Oui. Donc ça, c'est ces différences sur le mode relationnel. Ouais. Et puis, il y a un dernier mode, le mode d'engendrement, si je ne me trompe pas, qui explique aussi la différence entre l'homme et la femme.
Oui, alors c'est l'avant-dernier mode.
Pardon.
Ouais, le mode d'engendrement. La femme, elle engendre en accueillant, en maternant, en nourrissant, en prenant soin. Elle est vraiment gardienne de la vie. C'est le fameux mot de Heiser qu'on avait développé la dernière fois. Alors que l'homme, il engendre à l'extérieur. En fait, il va pousser à l'extérieur, il va tourner vers le monde en donnant sa confiance et sa force pour faire advenir l'autre dans le monde, pour que l'autre trouve sa place. Voilà, c'est vraiment cet exemple du papa qui coupe le cordon à la fois réellement et donc réellement au moment de la naissance, s'il le souhaite, et symboliquement en poussant les enfants hors du nid, en les séparant de la mère, en disant « mais toi, t'es prêt à aller acheter le pain tout seul, t'es prêt à aller faire du vélo tout seul ». Voilà, alors que la maman, elle a toujours plus facilement ce côté mère poule, là, il est peut-être encore un peu jeune. Le papa dit « non, voilà, on coupe, il est capable d'aller dans le monde, d'aller de l'avant ». Voilà, il a vraiment cette force. Et alors que voilà, à l'inverse, la femme, elle est plutôt dans l'accueil, dans la maternité. Et c'est très drôle, par exemple, quand on prend l'exemple de « si on lance un ballon à un petit garçon, à une petite fille », et ben le ballon, voilà, le petit garçon, s'il reçoit un ballon, il va shooter dedans et le renvoyer dans le monde. Alors que la petite fille, en fait, à qui on lance un ballon, elle le reçoit avec les mains et elle le garde serré contre elle. Et
comme
en fait, elle comprend pas. Et voilà, comme une poupée, elle comprend pas que c'est pas fait pour ça un ballon.
Donc effectivement, une grande différence entre l'homme et la femme dans ce mode d'engendrement. Et puis le dernier, vous disiez, Camille Lecertaine, c'est sur la manière de se donner.
Oui, le mode oblatif. En fait, c'est important de comprendre le mécanisme du don En fait, dans un don, il y a un donateur, un initiateur du don, et il y a aussi un donateur, celui qui reçoit le don. Et en fait, pour qu'un don soit réellement un don, il faut qu'il soit initié, mais il faut aussi qu'il soit reçu. Or, souvent, on pense plutôt, quand on pense à un don, on pense à l'initiation, mais on ne pense pas à celui, au fait de recevoir le don. Ouais. Voilà. Et la femme, eh bien, elle est dans l'accueil. Voilà, elle est vraiment
dans la réception.
Dans la réception, oui, exactement. Elle est vraiment dans un mode complétif. Et donc, elle se donne en accueillant. Elle prend la charge de l'autre par l'accueil dans son cœur, par son amour. Mais si ce don n'est pas reçu, il n'y aura pas de don. Alors que l'homme, lui, voilà, il est plutôt dans un mode combatif. Et donc, il se donne en se livrant. Et il prend la charge de l'autre par le don de sa force, de son agir. Mais il a besoin que la femme accueille. En fait, la femme a besoin que l'homme donne, initie le don pour pouvoir recevoir le don. Mais l'homme a besoin que la femme accueille. Parce que si la femme n'accueille pas son don, finalement, ça annule le don de l'homme.
Eh oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être des caricatures à éviter sur ce sujet, puisque vous nous avez un peu mis en alerte au début de cette émission en disant, bon, voilà, c'est des traits fondamentaux, oui. Mais bon, il ne faut peut-être pas tomber non plus dans trop de catégorisation.
Oui, alors en fait, évidemment que la femme est capable d'initier un don. Elle n'est pas que dans la réception. Oui. Mais c'est vraiment important parce que, en fait, quand même, on voit bien que la société, le monde a un mode très masculin. Et donc, voilà, spontanément, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est donné, on pense à l'image de l'initiation. Et donc, la femme est capable d'initier de nombreuses choses, évidemment. Mais fondamentalement, il y a vraiment ce sens de l'accueil qui est à retrouver, qui me semble qu'on retrouve de plus en plus quand on parle de bienveillance, quand on parle de gratitude. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit d'accueillir tous les dons qui nous sont faits, de reconnaître, en fait, qu'on reçoit sans cesse des dons. Mais justement, c'est quelque chose peut-être qu'on est en train de redécouvrir parce qu'on l'avait vraiment oublié. Donc oui, l'homme est capable de recevoir un don que lui fait sa femme et la femme est capable d'initier un don, mais fondamentalement, et on le voit dans la relation conjugale, en fait, enfin, voilà, l'homme initie, se donne à l'extérieur de lui et la femme reçoit.
Oui, c'est ça. Oui, ça se voit aussi dans la dimension sexuelle de la relation. Ouais. Alors, on voit bien comment l'homme et la femme agissent pour le bien. Et en tout cas, vous l'avez montré justement par ce don et par le fait que l'homme pousse vers l'extérieur, la femme accueille, materne. Quelles sont, l'autre côté de la face, les inclinations au mal de chacun ?
Oui, de la même façon qu'il y a des enjeux sur le bien, il y en a sur le mal. L'enjeu pour la femme, une inclination qui peut être présente, c'est de capter les autres pour elle-même. C'est-à-dire, pas d'accueillir pour recevoir et pour l'autre, mais d'accueillir pour elle-même, en fait. Notamment capter l'énergie de l'homme, ou dominer psychologiquement, et voilà, attirer à elle et non à Dieu. Parce qu'en fait, voilà, vraiment, il y a quelque chose de très important, c'est notamment tout l'enjeu de la séduction. Séduire, c'est conduire à soi-même. Et voilà, et c'est là où, pourquoi la femme accueille ? Est-ce que c'est pour soi ou est-ce que c'est pour Dieu ? Est-ce que c'est pour élever les autres ? Voilà, un autre enjeu pour la femme, c'est de se laisser attacher, un peu liée intérieurement par sa sensibilité, son affectivité. Et là, on l'a noté tout à l'heure, l'importance de l'enrichissement de l'homme. À l'inverse, pour l'homme, l'inclination au mal, elle est dans le fait d'agir pour lui-même, en fait, de se livrer sans but, de s'éparpiller dans les objets, de se laisser attacher à eux, ou alors de dominer par la force. Voilà. Vraiment, là, pour l'homme et la femme, il y a vraiment l'enjeu de ne pas rentrer dans un rapport de force, en fait, qui rendrait la complémentarité impossible.
Voilà. Oui, parce qu'en vous entendant, on comprend bien que finalement, il y a une force des deux côtés.
Oui.
Il y a une captation qui peut être une domination.
Oui, oui, ouais. Tout à fait. Et alors, plus psychologique chez la femme. Chez l'homme, la force, elle est plus extérieure, elle est plus physique. Mais oui, il y a une force des deux côtés.
Ouais.
Heureusement.
Oui, oui, heureusement. Mais qui doit être mise
au service.
Tournée, voilà. Ouais. Mise au service pour faire grandir l'autre et ne pas capter pour soi.
Ouais, ouais.
Je vous propose, Camille de Certaines, de marquer une pause musicale. Nous écoutons cette bande originale très connue, Un homme et une femme, composée par Francis Lai.
But
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme? C'est le thème de cette troisième émission d'Anthropologie chrétienne avec Camille de Certaines. Camille, vous nous avez expliqué dans cette première partie d'émission les spécificités de l'homme et de la femme dans ce qu'ils sont, dans leur mode relationnel, dans leur mode d'engendrement, dans leur façon de se donner. Et puis, alors maintenant, j'aimerais bien que nous parlions des émotions, parce qu'elles ont une place dans ces spécificités de l'homme et de la femme. Et alors, vous allez reprendre les propos d'un invité que nous avons déjà reçu plusieurs fois à cette antenne. Il s'agit de Marc d'Anselme.
Oui, Isabelle, c'est vraiment un sujet essentiel, les émotions. Et Marc d'Anselme a un très bon livre, L'amour durable, dans lequel il traite de ces émotions, notamment. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est vraiment une réaction corporelle à un événement. Donc ça se passe dans le cerveau avec une production hormonale qui nous bouleverse et qui induit des processus, des réactions en nous. Donc c'est vraiment mon corps qui réagit à tel ou tel événement.
On n'y peut rien en fait.
Exactement, ouais. On n'y peut rien. Les principales émotions, c'est la joie, la peur, la tristesse, la colère. Voilà. On est vraiment, c'est pas la même chose qu'un sentiment, vous voyez, qui dure plus. L'émotion, c'est vraiment très réactif, dans l'instant, automatique, voilà, on n'y peut rien.
Et c'est un signe aussi.
Et c'est un signe. C'est un signe qu'on est touché par quelque
voilà,
chose.
Voilà, d'une situation qui nous perturbe, en
oui.
fait. Ouais, ouais. Un signal d'alarme, on pourrait
oui,
dire.
Oui, ouais. Oui.
Comment les émotions se manifestent différemment, donc, chez l'homme et chez la femme?
Oui, là encore, on a des différences hommes-femmes sur les émotions. L'homme, souvent, on dit qu'il doit être fort sur les émotions. Donc, voilà, donc il ne les regarde pas trop pour ne pas s'apesantir. Mais en fait, elles sont là. Donc, il les porte inconsciemment, finalement, un peu dans son dos. Là, il les porte, mais sans s'en rendre compte.
On ne lui dit de pas pleurer, par exemple, quand il est petit.
Oui, voilà, ouais. Exactement. Une maman va dire à son fils d'être fort, d'être un garçon costaud. Donc, il n'y a pas de place pour les larmes. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas de place pour les émotions. Voilà, l'homme, il doit être efficace, il doit être performant, il avance sur les problèmes. Voilà, il n'y a pas de place pour les émotions. Alors que la femme, elle est vraiment axée sur les émotions et notamment du fait de sa maternité, parce que bon, la nature est bien faite, mais pour comprendre ses enfants, eh bien, elle est naturellement dotée de capacités à comprendre leurs émotions. Edith Stein parle d'anthropathie, on en parlera dans une séance plus tard.
Vous nous mettez
voilà, mais vraiment
bouche,
cette, hein. cette capacité de se mettre dans la perspective de l'autre. Voilà. Donc la femme, voilà, elle voit les choses, elle voit la vie spontanément sur le plan émotionnel. Alors que l'homme, lui, il est sur le plan rationnel. Donc on voit, on n'est pas du tout sur le même niveau.
Et on le voit bien, si je peux me permettre de vous couper, dans l'exemple de, puisque vous avez parlé de la maternité, Camille de Certaines, quand le bébé et le nouveau-né pleurent, la femme le prend dans ses bras et puis essaye d'abord de le cajoler.
Oui.
Et puis l'homme veut savoir en fait ce qu'il y a.
Ce qu'il y a.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, la femme, elle a son cœur qui vibre dès qu'elle entend les cris de son nouveau-né. Et donc voilà, elle va exactement le câliner. Alors que l'homme, il se pose la question, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a froid? Enfin voilà, oui. Tout de suite, il faut agir. Et donc, il va falloir que les deux se rejoignent sur les émotions pour les traiter, pour pouvoir agir. Parce que sinon, en fait, les émotions vont nous bloquer, en fait, nous empêcher d'être rationnels. Donc la femme a besoin que l'homme la rejoigne sur les émotions, la comprenne, accueille ses émotions, la soutienne, la félicite. Voilà, la femme, elle n'a pas d'abord besoin de solutions pratiques. Elle a besoin d'abord d'un accueil émotionnel. Et à l'inverse, la femme, elle doit se laisser sortir du domaine émotionnel pour ensuite vivre les choses. Et c'est là où l'homme va l'aider justement à sortir des émotions. L'homme, lui, voilà, il va avoir un travail, un effort à faire pour dire ses émotions. Et ça, c'est un travail qui vraiment doit être encouragé de manière très délicate pour la femme. Il ne s'agit pas de brusquer ou de brutaliser. Voilà, mais vraiment, s'il y a beaucoup de délicatesse, eh bien, l'homme qui porte des émotions va pouvoir les dire, oui. Même lui en prendre conscience.
Oui, et c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Et vous avez raison de parler de délicatesse.
Oui. Oui.
qu'est-ce que les émotions permettent de vivre dans la relation entre l'homme et la femme?
Il y a vraiment une place fondamentale des émotions dans la vie conjugale. On voit, ça peut vraiment structurer ou déstructurer un couple, selon en fait si le couple va arriver à communiquer émotionnellement ou pas. Il y a vraiment une nécessité capitale de comprendre les émotions de l'autre. Parce que comprendre les émotions de mon conjoint, eh bien, ça me permet de comprendre ses réactions, ses comportements, et donc ça facilite la relation. Il y a tellement de difficultés conjugales qui sont liées à l'incompréhension. En fait, il y a vraiment deux chemins. Soit on a une boucle vertueuse, parce que les émotions sont comprises dans le couple.
Et parce qu'elles sont dites aussi, alors.
Oui, elles sont dites, elles sont partagées, elles sont comprises l'un par l'autre. Du coup, le lien se renforce et du coup, les émotions vont être plus facilement dites parce que si je fais confiance, je vais plus facilement pouvoir dire ce que je vis à l'intérieur de moi-même. Et donc, encore être compris, etc. Voilà, on voit vraiment cette boucle vertueuse. Et à l'inverse, si on n'est pas compris par quelqu'un que nous aimons, ça génère de l'incompréhension, ça génère de la colère, qui est donc une émotion, donc ça renforce les émotions, incompréhension, etc. Voilà, on a vraiment la clé qui est la compréhension des émotions.
Et puis on le voit bien, quand l'un des membres du couple réagit de façon presque démesurée à un événement, donc avec une émotion qui est très forte, si on n'a pas eu le temps d'élaborer cette émotion, de l'expliquer, l'autre peut être dans l'incompréhension et se demander pourquoi il y a une réaction aussi disproportionnée.
Oui, l'incompréhension, c'est vraiment le risque quand je ne comprends pas les émotions de mon conjoint. Et en fait, qu'est-ce qu'elle génère, l'incompréhension ? Elle génère l'interprétation. Parce qu'en fait, j'émets une hypothèse sur le comportement de mon conjoint. Et en fait, il va falloir que j'aille la vérifier avec lui si c'est bien ça qu'il vit. Et en fait, du coup, après, pouvoir réajuster si besoin. Et ça va me permettre de me mettre en empathie avec lui sur ce qu'il vit réellement. Et ça permet, l'élaboration dont on parlera après, mais ça permet de faire grandir la parole, de renouer la communication, parce qu'en fait, on va questionner l'autre sans agressivité, sans reproche.
Juste pour essayer de comprendre, en fait.
Oui, exactement. En fait, si on prend un exemple, mon conjoint me semble vouloir passer trop vite sur cet enjeu familial, d'éducation des enfants ou de relations familiales. Et moi, je ressens, j'ai l'impression qu'il est assez stoïque, qu'il veut passer à autre chose. Et du coup, en fait, si je peux émettre l'hypothèse qu'en fait, il s'en moque. Qu'il n'a pas envie de creuser ce sujet ou peut-être même qu'il ne se préoccupe pas de comment moi je vis ce sujet. Et donc, si je ne vais pas le questionner, si je ne vais pas vérifier avec lui qu'est-ce qu'il vit vraiment et qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade que j'ai l'impression de ressentir.
Parce que ça peut être une gêne ou
Et voilà. Et en fait, je peux interpréter et mal interpréter. Alors peut-être qu'en fait, lui, il le vit autrement. Lui, il a peut-être besoin de temps pour réintérioriser ce qui se passe, pour prendre du recul avant de trouver la bonne solution. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de se préoccuper fondamentalement de cet enjeu familial que nous vivons. Mmh. Et donc, ça peut générer une incompréhension et une interprétation. Et donc, il y a vraiment, ce qu'il faut atteindre, en fait, c'est l'empathie. C'est vraiment comprendre l'émotion de l'autre et ce que cette émotion déclenche chez l'autre. Et en fait, on le voit, cette compréhension mutuelle, elle va renforcer le lien. Et dans un couple, s'il y a plus de liens, il y a plus d'amour. Voilà.
Tout simplement.
Vraiment, les moments les plus forts dans un couple, c'est les moments où on est connecté émotionnellement. Et alors, paradoxalement, parce que quand on pense connecté émotionnellement, on pense aux joies, etc. Mais finalement, paradoxalement, c'est peut-être dans les moments de fragilité, des moments où on pleure ensemble parce qu'on vit une épreuve ensemble, où on peut être très, très connecté. Et pourquoi on est très connecté ? Parce qu'on est vrai et qu'on laisse apparaître ce qui est au fond de nous, qui on est vraiment, nos faiblesses, et on va se rejoindre dans notre faiblesse. Et en fait, on se rejoint dans nos joies, dans nos forces, mais aussi dans notre faiblesse. Et être connecté émotionnellement dans nos forces et dans nos faiblesses, c'est vraiment fondateur par un couple.
Et on le voit, si je peux prendre un exemple, dans le dernier livre d'Anne-Dauphine Julien, qui raconte l'histoire de ces trois enfants qui sont morts, dont malheureusement le dernier qui est mort de suicide. Elle raconte comment son couple a été soudé dans la difficulté, dans la tristesse, le doute, la colère, etc. Oui. Et dans cette faiblesse, justement.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Voilà, vraiment, être connecté émotionnellement, c'est tout le temps. En fait, c'est dans les joies et dans les peines. C'est vraiment partager et nous rejoindre dans nos émotions, être vrai l'un avec l'autre.
Et par quoi ça passe, cette connexion, si on peut dire ?
Elle passe tout d'abord par le regard. On peut prendre un exemple. Quand on pense au langage de l'amour de Gary Chapman et des moments de qualité, on peut dire on va soigner notre couple en prenant un moment de qualité. Par exemple, on se fait un resto tous les deux, on va passer un moment ensemble. Mais en fait, il y a plusieurs façons de vivre ce moment de qualité. Et si pendant ce moment, nous n'y vivons pas de connexion émotionnelle, si nous ne nous regardons pas, si nous parlons des autres et si nous ne parlons pas de nous, si nous sommes sur notre téléphone, finalement, on ne va pas se rejoindre émotionnellement. Or, quand je vois dans le regard de mon conjoint quand je vois dans son regard qu'il comprend ce que je vis, et ben ça me fait du bien.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, ça m'aide en fait à... Je me sens rejoint, je sens qu'il me comprend et donc je sens qu'il m'aime. Voilà, et donc vraiment, c'est très important de travailler la compréhension des émotions de l'autre. Et notamment, hein, on disait, la femme est dans l'accueil. Eh bien voilà, la femme doit être attentive à accueillir, et en général, elle le fait, hein, mais c'est important d'accueillir les émotions de son conjoint pour travailler la connexion émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est ces moments où les émotions passent entre l'un et l'autre. Donc, se regarder, regarder le visage, regarder les traits de l'autre.
Oui, et puis son langage corporel, ça peut être aussi les mains, ça peut être la façon dont le dos est plus ou moins voûté, c'est effectivement très parlant. Est-ce que on peut empêcher une émotion de se manifester?
Et non, on ne peut pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une réaction, c'est passif en fait. C'est vraiment le propre de la passion, ça nous arrive et c'est comme une réaction. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est amoral. Donc, ce n'est ni bon ni mauvais.
Il n'y a pas de jugement sur l'émotion.
Exactement, il n'y a pas de jugement. Une émotion ne doit pas être jugée. C'est comme ça et j'y peux rien. En revanche, là où je peux quelque chose, c'est que je sais que si je m'expose à tel ou tel événement, je vais expérimenter telle émotion. Et donc, en fonction de mon histoire, de mes blessures, les émotions vont résonner de manière particulière. Et puis après, évidemment, là où je peux quelque chose, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette émotion. Voilà. Si je suis face à un événement qui suscite en moi de la colère, ce premier mouvement à l'intérieur de moi, cette colère que je ressens, je n'y peux rien. Après, si je m'énerve, je crie, je frappe, là, j'ai vraiment une responsabilité.
Oui, c'est ça.
Mais concrètement, la réaction émotionnelle, on n'y peut rien. Je peux prendre un exemple. Hein. Si j'ai eu un accident de voiture dans mon enfance et que mon mari a une conduite assez sportive ou cherche la vitesse, ça va résonner en moi de manière hypersensible. Et donc, ça va exacerber mon stress, ma peur. Voilà. Et donc, peut-être que ma réaction sera complètement disproportionnée et l'autre ne peut pas comprendre. Mais voilà, c'est important de comprendre qu'avec son histoire, chaque personne reçoit les événements d'une certaine façon qu'une autre recevra d'une autre façon. Voilà, en fait, les émotions, par exemple, les émotions de notre enfance, elles vont rejaillir dans notre vie conjugale. C'est pour ça que c'est important de traiter, s'il y a des blessures d'enfance, de les traiter parce qu'en fait, on les porte toute sa vie.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez au début de cette émission, Camille de Certaines, avec cette image du sac à dos.
Oui.
Parfois, on les laisse et on les traîne un peu comme des gros boulets.
Oui, c'est ça, Isabelle, voilà. Exactement. En fait, pour avoir des comportements librement choisis, il faut régler, vraiment régler dans la mesure du possible nos blessures d'enfance.
Alors, on ne peut pas empêcher une émotion de se manifester, mais on a quand même un travail à faire pour atténuer notre réaction.
Oui, Marc d'Anselme parle d'élaborer les émotions, ça veut dire les transformer. Je crois que l'immense majorité des conseillers conjugaux, des psychologues insistent sur la gestion des émotions dans le couple. On l'a dit, les émotions, c'est une réaction corporelle. Les animaux ont des émotions, c'est vraiment de l'ordre de l'instinct. Et donc l'être humain, qui est un mammifère, mais l'être humain, il est doté d'intelligence et de volonté, et donc il peut choisir ses comportements. C'est ce qu'on disait, qu'est-ce que je vais faire de mes émotions. Et donc Marc d'Anselme parle des phases d'élaboration. Donc il y a 4 phases. Tout d'abord, en fait, identifier son émotion, la nommer.
Je suis en colère, j'ai peur.
Oui, exactement. Quelle émotion je ressens, en fait, la nommer, ça va permettre de la comprendre et surtout de la conscientiser. Et donc ensuite, comprendre l'événement qui l'a provoqué, la source, en fait, qu'est-ce qui génère cette émotion. Et puis comprendre le lien logique entre les deux. Pourquoi telle attitude de mon conjoint me met dans cet état? Pourquoi je ressens telle émotion dans telle situation? Et c'est là où peut-être il va falloir creuser, voir qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, dans mon enfance, qui peut entraîner cette sensibilité à tel ou tel événement.
Donc, il y a un lien à faire non seulement entre l'émotion et l'événement, mais aussi entre cette réaction et ce qui a pu se passer dans notre enfance, par exemple.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vraiment un peu faire la genèse, peut-être, de cette sensibilité à tel ou tel événement. Et puis, en conclusion, la prochaine fois que je suis face à tel événement, je vais pouvoir choisir en fait, de réagir d'une autre manière. Et c'est là où, en fait, je vais me comporter de manière totalement humaine parce que je sors du comportement qui est juste de l'ordre du réflexe. Voilà, et c'est là où il y a une éducation humaine, en fait. Mais ça, elle est possible, en fait, si on a fait tout ce chemin de nommer, de prendre conscience, de refaire la genèse, de comprendre les blessures, peut-être, et après, bah, pouvoir voilà, poser un choix, et là, finalement, d'être réellement libre. Parce que la liberté, elle inclut l'intelligence et la volonté, en fait.
Et ça, c'est certainement quelque chose qu'il faut transmettre dans l'éducation de ses enfants.
Oui. Et ouais. C'est tout le travail de leur apprendre à gérer leurs émotions dès la petite enfance, de leur faire eux-mêmes réaliser leurs émotions, leur faire comprendre et après leur faire poser des choix. Voilà. Et en fait, on voit qu'une fois qu'elle est élaborée, bah, l'émotion, en fait, elle va disparaître, elle va s'éténuer. Donc, je vais baisser ma sensibilité à tel ou tel événement, finalement.
Oui, donc l'émotion disparaît parce qu'elle a été élaborée, elle a été entendue
oui.
et comprise.
Et ça, c'est ça, ouais. Je me sens compris. Et donc finalement, je suis capable de prendre du recul par rapport à ça.
Ouais.
Alors qu'à l'inverse, si je ne me sens pas compris, eh ben, l'émotion, elle se stocke et elle va s'exacerber. Et donc, elle va finalement préconditionner le prochain événement, mon prochain réflexe. Et donc, en fait, ça prend beaucoup plus de place ouais. dans notre vie.
Ouais. Merci beaucoup Camille de Certaines pour Avec toutes joie. Ces précisions. Nous nous retrouvons le mois prochain pour parler de la vocation de la femme.
Oui. Au revoir Isabelle.
Au revoir.